France Info.
Bonsoir, l'hommage d'Emmanuel Macron aux héros sauveteurs en mer et notre sondage Odoxa, Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro, sur le discours de politique générale d'Edouard Philippe à la une. Désinformé avec vous, Véronique Relsoult, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice générale de Dentsu Consulting, à vos côtés Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24. Bonsoir Roselyne, bienvenue. Également invité nos informés du jeudi, Yannick Halimi. Bonsoir Yannick.
Bonsoir Jean-François.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien, aujourd'hui en France. Et avec nous, bonsoir Sophie Fay.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'Obs. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Emmanuel Macron au Sable d'Olonne ce matin a rendu hommage donc aux trois héros français du sauvetage en mer qui ont trouvé la mort vendredi dernier.
Chère famille, aujourd'hui, le chagrin l'emporte. Mais je vous le dis, soyez fiers. Fiers de l'engagement et du courage de vos disparus. Fiers comme la France est fière d'eux. Yann, Alain et Dimitri avaient choisi. Ils avaient choisi l'engagement bénévole, désintéressé, au service des autres. Parce que pour eux, et quels que soient les risques, la solidarité des gens de mer était plus forte que tout. C'était une règle impérieuse, indiscutable, immuable. Un idéal.
Roselyne Fèvre, c'est l'hommage aux héros de la nation. Nous sommes au cœur du récit de ce quinquennat.
Oui, tout à fait. Et le narratif chez Emmanuel Macron est très important. Et ça, c'est imprégné de Paul Ricoeur, le philosophe dont il avait été l'assistant, Paul Ricoeur qui parlait de l'identité narrative. Donc vraiment imprégné tout ça. Il a puisé ça chez lui, cette idée d'héroïsme, cette idée de ceux qui sortent du lot. Parce qu'en réalité, Emmanuel Macron, il pense lui aussi qu'il est sorti du lot. Et il aime ces figures héroïques, cette mystique du héros, de ces hommes qui ont une cause plus grande qu'eux.
Ouais. Oui, Yannick Halimi, Emmanuel Macron a souligné l'engagement, je le cite, un bénévole, désintéressé, de ces 8000 sauveteurs de la SNSM, tous bénévoles, hein, des associations finalement qui sont extrêmement soudées. C'était un hommage nécessaire.
En tout cas, c'est un hommage, je ne veux pas dire totalement inédit, mais assez inédit. C'est quand même rarissime qu'on voit un président de la République se déplacer sur des lieux et à des moments dramatiques, certes, mais je pense que c'est quand même la première fois que ce genre de déplacement a lieu. Alors pour moi, ça poursuit, comme le disait Roselyne Fèvre, il y a une sorte de continuité dans la présidence que veut incarner Emmanuel Macron, mais ça correspond aussi à un moment. Alors la continuité, c'est au-delà de ce que vous, enfin au-delà, en plus, pardon, de ce que vous dites. C'est aussi la thématique de l'individu qui est très forte, hein, de, oui.
De
une sorte de personnalisme, oui mais individuel. Même s'ils étaient plusieurs et qui saluent la communauté et la famille, comme disait le chef de l'État, la famille des marins, je crois, de mémoire. Ça participe aussi de toute la construction philosophique et politique d'Emmanuel Macron. Mais je pense qu'il y a aussi un élément factuel, conjoncturel, c'est que on a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu depuis qu'il est président de la République, quand même cet Emmanuel Macron qui dont le comportement est considéré par beaucoup comme hautain, le fameux premier de cordée avec aucune...
Là, vous trouvez que c'est l'inverse, là.
Je trouve que dans la mesure où, encore une fois, il n'était peut-être pas obligé, en tant que chef de l'État, de venir sur ce site à cette occasion dramatique, je pense qu'il essaie, on va voir par la suite, c'est une tentative d'explication, il essaie de redonner ce qu'il avait eu quand même pendant la campagne, un aspect de bienveillance, voire d'empathie avec une partie du corps social.
Un président de la République
et national.
Et celui incarne... qui incarne la France, c'est l'incarnation de la France. Donc, quand les drames touchent des Français, il est là pour, incarner ce drame.
Vous partagez ce point de vue, Sophie Fay?
Oui, c'est aussi un bel hommage à une France de bénévoles sans laquelle rien ne fonctionnerait. On voit bien que il a été l'un des premiers à tenir ce discours. Vous demandez pas ce que la France peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la France. Et c'est exactement ce que font ces bénévoles. Ils n'attendent pas forcément l'aide de l'État. Ils lèvent de l'argent eux-mêmes. Ils se mobilisent eux-mêmes pour
recueillir les dons. On a vu beaucoup de reportages là-dessus, hein, de nombreux sur France Info notamment. Effectivement, ils paient beaucoup de leur personnes, dans tous les sens du terme.
Et donc, c'est vrai qu'on oublie souvent que à quel point cette France, la France marcherait moins bien sans ses associations, sans ses bénévoles. On les voit aussi très, très présents auprès des réfugiés, auprès des maintenant on les voit aussi dans les, pour l'aide aux chômeurs, pour l'aide aux devoirs aux enfants. Bon, ils sont partout. Alors, et c'est un moyen de rendre hommage aussi à ces bénévoles.
Absolument. Il y a une donnée chiffrée, hein. Les sauveteurs embarqués, l'an dernier ont assuré près de 4000 interventions de sauvetage en mer et secouru 7191 personnes. C'est trouvé sur le site de France 3. Véronique Reilsoult, on en a beaucoup parlé sur les réseaux.
On en a beaucoup parlé et puis c'était un moment de communion et de rassemblement dans l'émotion. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, vous avez toujours beaucoup de réactions dès qu'il y a de l'émotion et c'était un moment émouvant. Il y avait peu de critiques de fait parce qu'on ne pouvait être que d'accord avec ce que le président de la République a dit et on sentait que lui-même était ému et donc c'était un moment de rassemblement dans une émotion plutôt forte et plutôt positive. Dans les points qui ont été très commentés sur les réseaux, c'est qu'il a décoré aussi les vivants, ce qui est assez rare.
Oui, vous avez raison.
Et donc en fait, les Français ont trouvé que finalement, on pouvait aussi honorer les vivants dans leur abnégation et dans leurs efforts. Après, évidemment, il y a toujours des petits sujets de polémique. Le sujet
bien sûr,
du bénévole,
notamment
bien
sûr. Sur le modèle du sauvetage en mer, mais c'était peut-être pas forcément le jour.
C'était pas le jour, mais de fait, ça, c'est un peu ressorti.
Oui, c'était pas le jour, et puis peut-être que cette polémique entre guillemets va prospérer. Mais quand même, au-delà de, comme vous le disiez, de l'incarnation de la nation, moi je trouve que cette incarnation-là, jusqu'à présent, les présidents de la République voulaient justement la représenter, l'incarner dans des moments où la nation était touchée, notamment lors de prise d'otages, quand c'est à travers les otages la France qui est prise comme cible, et évidemment dans les actes terroristes. Là, on n'en est pas du tout, on n'est pas du tout sur ce registre-là, ça relève quand même de l'accident. Et donc, c'est pour ça que je trouve que là, il y a un côté inédit qui participe d'un moment pour le quinquennat de Macron et encore une fois, ce qu'il pouvait représenter vis-à-vis du corps social et du corps national dans son côté hautain, méprisant et déconnecté, distancié.
Allez, on va reparler de politique générale à présent avec notre enquête Odoxa Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro, mais pour l'heure, 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
L'autoroute A9 totalement coupée à la circulation ce soir entre Montpellier et Nîmes. Un accident a eu lieu peu avant 17h à hauteur de Galargues dans le Gard. On compte 2 morts, plusieurs blessés après une collision entre 3 camions et 4 voitures, rapporte France Bleu Gard-Lozère. Le procès Balkany avec dans le volet blanchiment de fraude fiscale les réquisitions du parquet national financier. Il demande à l'encontre du maire de Levallois-Perret une condamnation à 7 ans de prison ferme avec détention assortie d'une peine de 10 ans d'inéligibilité. Il réclame à l'encontre de son épouse 4 ans de prison avec sursis et 500 000 euros d'amende. Le discours de politique générale d'Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale a-t-il convaincu ? Eh bien, pour les 2/3 des Français, il ne marque aucun tournant dans la politique du gouvernement. C'est ce que l'on apprend à la lecture ce soir de notre sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Handball, les Français qualifiés pour l'Euro 2020. Ils ont battu ce soir la Lituanie 37-17. Enfin, le mondial féminin de football et la victoire de l'Australie sur le Brésil ce soir à Montpellier. Score final 3-2 à 21h. L'Afrique du Sud affronte la Chine.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Les Français, effectivement, très mitigés après le discours de politique générale d'Édouard Philippe, comme l'évoquait à l'instant Thomas Bénèche. Je vous propose d'écouter tout de suite Gaël Slimane, le cofondateur et président d'Odoxa.
Pchit, dirait l'autre. Vous avez 5% des Français, un Français sur 20, qui a vu ou écouté cette allocution dans son entièreté, globalement. Vous en avez 15% qui nous disent « Ah, moi j'en ai entendu ou vu des bribes d'une partie ». Ça fait 20% de la population, c'est pas beaucoup. Et si vous ajoutez ceux qui, sur les chaînes info, chez vous, ailleurs, dans d'autres médias, ont entendu des extraits ou des commentaires autour du discours, en gros, vous êtes à peine un peu plus d'un Français sur deux.
Pchit, vraiment, Véronique Reilsoult, je rappelle, vous êtes partenaire de ce sondage.
Oui, alors Pchit, dans les questions, on voit que donc peu en ont parlé, et je vais même vous dire sur les réseaux sociaux, Pchit aussi, parce que 45 000 messages, c'est pas grand-chose, donc globalement, ça n'a pas forcément passionné les Français, et quand je regarde qui en a parlé sur les réseaux, c'est plutôt les politiques, c'est plutôt les gens qui sont concernés par ces sujets, les partis, les militants, les sympathisants, mais on va dire que les Français se sont peu sentis concernés, d'abord parce qu'ils n'attendaient pas grand-chose en soi, et puis globalement, ils ont eu l'impression que c'était plus un discours pour l'hémicycle en soi plus que pour les Français eux-mêmes. Donc pas forcément beaucoup de commentaires et de réaction en soi.
Vous êtes surprise, Roselyne Fèvre ?
Non, c'est vrai. C'est un discours qui n'est pas pour l'opinion publique, qui est pour le champ politique.
Un discours politique général d'un Premier ministre n'a jamais soulevé l'enthousiasme des foules. Hein, faut le rappeler.
On est d'accord. et peut-être même parfois l'enthousiasme tout court. Mais c'est clair que, voilà, Édouard Philippe, les gens ne vont en réalité retenir que ce qu'il a mis au fronton, hein, oui, en tête de gondole, c'est l'écologie, parce que c'est un sujet effectivement très consensuel. Donc les Français auront retenu que Édouard Philippe va faire la guerre au plastique, au gobelet en plastique, au gaspillage.
Je vous sens un peu ironique quand même au passage.
Pardon,
faire la guerre au gobelet en plastique, c'est un peu short quand même.
C'est ce qu'il a dit, dans les administrations, on interdit le plastique. Non mais bien évidemment, il y a la rénovation énergétique. Je peux vous faire la liste des courses si vous voulez, mais ça va être un peu ennuyeux. Je ne veux pas refaire le discours de politique générale.
Permettez-moi de donner cette ce chiffre, hein, avancé par Odoxa Dentsu Consulting pour France Info Le Figaro, 52% des personnes interrogées disent approuver l'ensemble des mesures proposées. Je parle sous votre gouverne, Véronique Reltsoult. 51% seulement ont trouvé le Premier ministre convaincant, Jeannick Halimi. Au fond, c'est un petit peu couru d'avance. C'est un peu mitigé. C'est un petit peu comme les mois derniers qui se sont écoulés.
Oui et non, parce que justement, si c'est mitigé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu tout ce que nous avons vécu depuis le mois de novembre. La crise des Gilets jaunes, le grand débat, les européennes. Le paquet fiscal, les 13, 17 milliards d'euros au total. Ce qui a vraiment les Français ne s'attendaient pas non plus à un New Deal complètement différent de ce qui avait été annoncé. Alors, il y a un peu plus d'écologie. Les écologistes sont plutôt...
Mais nous avions été prévenus, hein. Attention, oui. Roulement de tambour, l'écologie arrive.
On était prévenus. Il y a quelques précisions sur le calendrier de la PMA. Et je pense que les Français, et d'ailleurs le chiffre que vous donnez, 52%, sont plutôt satisfaits. Les Français vont remarquer et souligner que le gouvernement, une fois qu'il a fait encore une fois toutes ces annonces après le grand débat ou au moment de la crise des Gilets jaunes, garde le cap. Dernier point, je pense qu'il y a une erreur, encore une fois, pour le coup, de communication. Ça durera ce que ça durera, et c'est ça qui va faire pchit. C'est quand les équipes gouvernementales annonçaient l'acte 2 du quinquennat. Non, l'acte 2 du quinquennat, ça a été, on va dire, après le grand débat, mais l'acte 2, il était déjà commencé.
Mais on n'a rien retenu, parce qu'il y en avait pour tout le monde. Voilà,
ce que je vous propose, c'est que nous allons écouter ce qu'a dit ce matin Édouard Philippe, hein, le Premier ministre, puisqu'il y a eu de nouveau le discours devant les sénateurs. Il a évoqué, justement, puisque vous y faites allusion, Jeannick Halimi, l'engagement écologique.
Répondre à l'urgence écologique est le premier axe de notre feuille de route. J'ai présenté hier mon plan de bataille pour les prochains mois. Nous allons accélérer la transformation environnementale de notre économie et de nos transports, rendre plus accessibles et plus incitatives les aides à la rénovation énergétique, en finir avec un consumérisme qui consiste à jeter, à gaspiller avec une insouciance inconsidérée et qui met en danger la qualité de notre alimentation et de la biodiversité. Certains nous reprocheront toujours de ne pas aller assez vite ou assez loin. Mais hier, j'ai présenté nombre de mesures qui transforment nos modes de production, de transport, de consommation, de vie.
Alors Sophie Fay, je m'adresse à vous parce que vous êtes économiste, hein, au passage, je le rappelle. Dans les mesures...
Journaliste économique, n'exagérons pas.
Vous êtes modeste. Dans les mesures donc, qui sont égrenées et que nous avons sondées avec Odoxa Dentsu Consulting, la première qui donne le plus de satisfaction, Véronique Reltsoult, 81%, c'est l'interdiction justement de ce que vous évoquiez tout à l'heure, Roselyne Fèvre, de tous les produits en plastique jetables dans l'administration à partir de 2020. Sophie Fay, est-ce que vous avez la sensation que, au fond, les mesures qui ont été égrenées hier, plus globalement, remplissent la case, si je puis dire, écologique, et surtout sont documentées en termes de dépenses publiques?
Alors non, on sent bien qu'il y a le début de quelque chose, et notamment ce qu'il a annoncé sur la rénovation énergétique. S'il le met vraiment en œuvre, c'est très prometteur, mais c'est très coûteux. Donc il va falloir financer tout ça, c'est pas du tout prévu. En revanche, il y a une autre mesure sur le plan énergétique qu'il annonce, enfin sur le plan environnemental. Il a bien dit que sur les niches fiscales, ce que le gouvernement gouvernement allait rechercher et celles sur lesquelles il allait essayer de prendre de l'argent pour financer la baisse de l'impôt sur le revenu, c'était bien les niches qui n'étaient pas écologiques. Donc, par exemple, la niche qui permet aux engins de BTP de payer moins cher le gazole. On peut se demander ce qui va se passer d'ailleurs sur le gazole des transporteurs. Et donc, ça, c'est quand même assez intéressant.
Votre point de vue global, Sophie Fay, sur ce discours de politique générale, il vous semble coller un petit peu aux exigences du moment?
Ça dépend les exigences de qui. D'une certaine manière, la Commission européenne, le FMI, les économistes disent vous avez retardé un peu votre objectif de retour à l'équilibre des comptes publics pour pouvoir faire des mesures de pouvoir d'achat, pour pouvoir donner satisfaction aux gilets jaunes. D'accord, on va pas vous sanctionner, on va pas vous demander de faire des économies drastiques, mais à condition que vous poursuiviez votre programme de réforme. Et là, de ce point de vue-là, le contrat est rempli. Là où, en revanche, ça peut être un peu décevant, c'est que sur ce dossier des retraites, il a quand même évoqué une histoire d'âge pivot, d'âge équilibre, de départ à la retraite. Bon, c'est pas très bien ce que ça veut dire, mais on est en train de comprendre quand même assez clairement
que... C'est comment enjamber les 62 ans tout en les conservant.
Voilà, pour l'équilibre des régimes, on va travailler plus longtemps sans toucher plus de retraites.
Véronique Ressoul, justement, c'est l'item le plus sévèrement jugé ce soir.
Seulement 33% qui sont pour, donc 66% des Français.
66% des Français opposés donc à cette
à ce sujet de l'âge.
Des retraites.
Après, quand on regardait de façon plus détaillée les commentaires, c'est vraiment la notion de l'âge lui-même, parce que par contre, quand on parle de l'alignement privé-public, là, c'est plutôt salué. Globalement,
privé.
On pourrait essayer dans l'autre sens, mais bon, en tout cas, globalement, cette partie-là, oui, c'est juste l'âge, la notion de l'âge, j'ai l'impression que c'est pas très clair. Et quand on regarde la répartition en fonction des idées politiques, on voit que c'est globalement, hormis La République En Marche, plutôt rejeté.
Jean-Nic Halimi, la retraite, sujet le plus compliqué à venir dans les réformes qui sont à l'horizon, là.
Oui, c'est un des sujets les plus compliqués parce que ça touche à des acquis, que c'est extrêmement complexe et que, bien sûr, le risque politique et social est réel parce que les gens vont voir que leurs conditions, entre guillemets, se détériorent. Il y a quand même une autre réforme qui, d'ailleurs, a été mise en balance dans le calendrier avec d'autres, c'est celle de la PMA. Souvenez-vous, la dernière réforme analogue, on va dire, ça a été le mariage pour tous, ce mariage homosexuel, avec ce que ça a provoqué comme manifestation dans les rues. Et Madame Taubira et François Hollande ont tenu. Mais ça aussi, ça pourrait de nouveau provoquer des mouvements de mécontentement dans la rue. Voilà, donc c'est pas non plus joué d'avance.
Étonnamment, 56% des Français ont plutôt salué cette mesure. Cette annonce,
alors majoritairement, les Français plutôt favorables, 56% à l'instauration de cette PMA étendue à toutes les femmes. Allez, 20h20 sur France Info, nous poursuivons le scanner sur notre enquête Odoxa, mais tout de suite le rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
À Lorient, un garçon de 7 ans se trouve encore ce soir en réanimation, déclare la procureure de la République. Elle s'exprimait après l'accident de dimanche dernier. Un automobiliste heurte à Lorient deux enfants, un de 7 ans, un autre de 9 ans qui est mort. Le chauffeur est toujours en fuite. Sa passagère, elle, est en garde à vue après s'être rendue à la police dès hier soir. L'oncle de deux enfants français retenus en Syrie porte plainte aujourd'hui contre la France devant l'Union européenne. Les enfants ont 2 et 3 ans et sont en détention dans un camp de prisonniers de l'État islamique avec leur mère. Leur oncle demande la condamnation de la France pour son refus de les rapatrier. Le Conseil de sécurité de l'ONU réunit ce jeudi en urgence après l'attaque d'origine inconnue de deux pétroliers. L'incident s'est déroulé en mer d'Oman, zone sous tension du fait des désaccords entre États-Unis et Iran sur le nucléaire. Il y a un mois, des attaques similaires ont eu lieu au large des Émirats Arabes Unis. En Iran, l'agence officielle de presse Sunna annonce l'inculpation ce soir de l'ancien président du pays, Omar el-Béchir. Destitué le mois dernier par l'armée, on l'accuse de corruption.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Elle ne s'était pas exprimée sur ce discours de politique générale d'Edouard Philippe. Elle l'a fait à Bruxelles en fin de journée. Marine Le Pen qui a dévoilé Identité et démocratie, c'est le nom du nouveau groupe de l'extrême droite au Parlement européen qui réunit le Rassemblement national, la Ligue italienne de Matteo Salvini et le parti alternatif für Deutschland. On écoute la présidente du RN.
Je pense qu'ils n'ont rien compris, je pense qu'ils sont dans un déni total de réalité. Ils n'ont pas entendu les mois et les mois de contestation. Ils n'ont pas entendu les résultats des élections européennes. Ils sont dans une démarche purement électoraliste, assez grossière, il faut bien le dire, qui consiste à peindre en vert un certain nombre de mesures pour essayer de capter, dans le cadre d'une drague lourde, l'électorat de M. Jadot. Ils font comme si de rien n'était. Alors il y aura à nouveau des difficultés, évidemment.
Roselyne Fèvre, la principale opposante à Emmanuel Macron, qui s'exprime depuis Bruxelles. Hein. Cela dessine un peu le nouveau visage de ce match politique des années à venir. Hein.
Oui, bah de toute façon, ça a été théorisé, et puis c'est vraiment ce qu'on a vu dans les urnes aux européennes. Hein, c'est le match continue. Même si Édouard Philippe, d'ailleurs hier, a dit que les clivages, non pas les clivages, il n'a pas employé ce mot-là, mais les cultures de gauche et de droite persistaient. C'est là où peut-être il va falloir qu'il fasse attention, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, peut-être à cet excès d'arrogance qu'il pourrait avoir de maintenir ce duel avec Marine Le Pen et en oubliant les autres. Peut-être que voilà, il se sent à l'abri aujourd'hui, oui. Ben, d'une opposition qui est complètement atone, la gauche qui est en capilotade et la droite qui est quasiment sous respirateur. Peut-être que peut-être qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe vont devoir faire aussi attention à cet excès de confiance.
Alors justement,
au fait que Marine Le Pen, elle reste dans son réduit, de toute façon, il y a son plafond de verre et qu'elle n'y arrivera jamais.
Alors justement, Véronique Krell-Soult, dans l'enquête d'Oxa Dentsu Consulting, France Info Figaro, Édouard Philippe n'a pas rassuré les Français. Alors il y a un chiffre qui est donné, c'est 62%. Hein. Pour les deux tiers, ce discours ne marque aucun tournant dans la politique menée par le gouvernement. C'était aussi un résultat un peu attendu finalement.
Oui, c'est un résultat un peu attendu. Je ne sais pas s'il cherchait à être rassuré non plus. Il pensait qu'il n'y aurait pas de tournant, qu'il n'y aurait pas de changement, que ça allait être dans la continuité. Donc globalement, c'est ce qui s'est passé. Donc ils sont ni rassurés ni pas rassurés. C'est un résultat plutôt médian. En disant, voilà, finalement, pas de surprise.
Je pense qu'ils peuvent aussi. Je pense que certains peuvent se satisfaire aussi du fait que le gouvernement garde le cap. Et l'Élysée garde le cap.
Ça se lit dans les deux
sens.
Mais
moi, je voudrais rajouter peut-être une chose. C'est que l'acte 1, quand même, c'était, je pars sous votre contrôle, vous qui êtes, économique. Oui. L'acte 1, c'était quand même la compétitivité, c'était l'économie française, la remettre droite. Aujourd'hui, effectivement, Édouard Philippe se réjouit de la nouvelle attractivité du chômage qui baisse. Donc, l'acte 1, il y a un virage dans le sens où l'acte 2, c'est effectivement l'écologie, la justice fiscale, ce n'est plus la compétitivité, ce
Alors,
n'est plus
justement, qu'est-ce que
ni
dit,
la politique industrielle.
Qu'est-ce que dit Edouard Philippe de cet acte 2, soi-disant du quinquennat? Écoutez de nouveau le Premier ministre au Sénat ce matin.
Nous engagions l'acte 2 du quinquennat du président de la République. Cet acte 2 s'inscrit dans la continuité du premier acte, mais s'en distingue très fortement par la méthode. Nous ne renions rien, nous sommes fiers des avancées qui ont été acquises depuis 2 ans pour libérer le travail tout en renforçant les filets de sécurité qui protègent nos concitoyens les plus vulnérables. Nous sommes fiers aussi d'avoir consenti un effort sans précédent en décembre en faveur du pouvoir d'achat de nos concitoyens. C'était nécessaire pour redonner de la confiance et de l'oxygène à beaucoup de Français. Cet effort se poursuivra.
Voilà donc Édouard Philippe au Sénat ce matin. Sophie Fay, d'un point de vue très économique et social, les choses ont bougé depuis 6 mois, au fond.
Oui, elles ont bougé, puisqu'il a quand même entendu, ce gouvernement a entendu les préoccupations sur le pouvoir d'achat, et il a compris les préoccupations de justice. On l'a vu dans la réforme qui a été un peu précisée de l'impôt sur le revenu, qu'on essaye de concentrer sur les tranches les plus basses et sur l'entrée dans le barème de l'impôt sur le revenu. Donc, encore une fois, c'est pareil, si on fait la rénovation thermique des bâtiments, si le gouvernement arrive à financer cette mesure et à aider les ménages, là aussi, c'est une bonne mesure. Donc, il y a un vrai changement. On le sent aussi dans la réforme de l'assurance chômage, dans ce qui est proposé. On va essayer de mettre des contraintes aux entreprises pour qu'elles soient pénalisées si elles font des contrats courts, le bonus malus. Oui. Et tout ça, c'est pour essayer de donner des perspectives et plus de stabilité à des employés qui étaient aujourd'hui entre emploi et chômage et qui souffraient beaucoup de précarité. Donc, on voit qu'il y a un souci de rassurer et de, si on pénalise quelqu'un, c'est plutôt les premiers de cordée, c'est plutôt ces cadres au chômage qui ont des revenus très élevés. Donc, eux, on va peut-être leur faire des indemnités dégressives, mais on va un peu moins toucher aux précaires, quoi. Donc c'est quand même un tournant.
Bon, nous continuerons d'exploiter notre enquête dans la deuxième partie des informés de France Info. Dans quelques minutes, rassurez-vous, la pause est courte. On entendra ce qu'on a dit ce matin, d'ailleurs, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, aux quatre vérités. Alors on marque une pause. La météo, le retour de l'info, et on se retrouve donc dans une poignée de minutes pour la suite des informés de France Info.
Pour acheter un bien immobilier neuf, faites le choix de l'expérience, le choix de professionnels mobilisés chaque jour, le choix du...
Quand on veut acheter dans le neuf, les discours c'est bien, mais les preuves c'est mieux. Avec Vinci Immobilier For You, les réserves à la livraison sont levées en moins de 60 jours, sinon vous êtes dédommagé. Résidence éligible, détail et conditions de la remise de chaque cadeau jusqu'à 2000 euros TTC en cas de non-levée des réserves dans un délai de 60 jours sur vinciimmobilierforyou.com ou dans votre bureau de vente.
Médias en scène, le premier festival des médias de demain revient le 8 octobre. Netflix, The New York Times, Twitch, Financial Times, la Fondation Bill Gates, The Guardian, ils seront tous là. Et vous ? Soyez les premiers à vous inscrire sur mediaenscène.com. Mardi 8 octobre à Paris, Médias en scène, un événement France Info et Les Échos.
Médias en scène avec TIDS et la MGEN.
La météo, les prévisions avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
Ce soir, de nouvelles pluies orageuses vont gagner l'Aquitaine puis le Limousin et la région Poitou-Charentes. Nous les retrouverons en cours de nuit entre la région Centre et l'Île-de-France, puis demain matin vers la Champagne-Ardenne et le Nord-Pas-de-Calais. Demain, prévoyez un temps instable avec des averses orageuses des Pyrénées au Massif Central, de la région Rhône-Alpes au Grand Est en passant par la Bourgogne et la Franche-Comté. Ces orages seront localement forts à l'est de la Bourgogne et jusque vers les Vosges avec un risque de chute de grêle. En revanche, vous profiterez encore du soleil en allant vers le sud-est. Partout ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies parfois belles et passages nuageux. Prévoyez encore quelques averses de la Bretagne à la Haute-Normandie. Côté température, les maximales évolueront de 18 à 22 degrés vers le nord-ouest et le long de la façade atlantique. Comptez 22 à 26 degrés ailleurs et jusqu'à 30 degrés près de la Grande Bleue. Attention, un coup de sirocco est attendu sur la partie occidentale de la Corse. Les températures seront voisines de 40 degrés vers Ajaccio, par exemple, dans un air étouffant.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Julien Langlais.
Bonsoir Jean-François. Ni confiance ni défiance pour les sénateurs qui, après les députés hier, étaient appelés à voter aujourd'hui à l'issue du discours de politique générale du Premier ministre. Discours légèrement différent de la veille, tout comme le résultat. Sur 345 votants, 181 sénateurs se sont abstenus, 93 ont voté contre et 71 ont voté pour, pardon. Comme les sénateurs, les Français interrogés dans notre sondage Odoxa sous consulting pour France Info sont dubitatifs après les annonces du Premier ministre. Cela n'annonce pas de changement ni de tournant pour 2 sondés sur 3. À l'exception de la réforme des retraites, les mesures phares annoncées par Édouard Philippe comme l'extension de la PMA, la baisse de l'impôt sur le revenu, recueillent l'approbation d'une majorité de Français. L'hommage de la nation aujourd'hui au Sable d'Olonne en Vendée, aux 3 sauveteurs décédés, aux 4 rescapés après avoir voulu porter secours à un chalutier en détresse vendredi dernier en Vendée. Une cérémonie d'hommage en présence du chef de l'État et de plusieurs milliers de personnes devant la baie des Sables d'Olonne. Emmanuel Macron a décoré ses sauveteurs de la Légion d'honneur. Des milliers de Français qui ont pris la nouvelle formule du Lévothyrox se sont plaints d'effets secondaires. Eh bien, l'agence du médicament leur répond aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème après avoir publié les résultats d'une étude, Solène Lehen.
L'agence du médicament a comparé l'état de santé de malades habitués à l'ancienne formule du Lévothyrox à celui de malades ayant pris la nouvelle formule introduite il y a 2 ans. Les auteurs de l'étude expliquent qu'avec la nouvelle formule, ils n'ont pas constaté plus d'hospitalisations, de décès ou d'arrêts de travail courts. Ils concèdent toutefois que les patients ont davantage consulté des médecins, 360 000 consultations supplémentaires, surtout des médecins généralistes et des endocrinologues. Autre constat, les malades ont consommé plus de médicaments comme les benzodiazépines pour aider à dormir ou traiter l'angoisse. En conclusion, les auteurs écrivent qu'il n'existe pas, je cite, « d'argument en faveur d'une toxicité propre de la nouvelle formule », confirmant là les rapports d'étape déjà rendus publics il y a 6 mois et 1 an. Ce bilan entend clore le débat sur le sujet, alors que des milliers de malades affirment toujours avoir été victimes d'effets secondaires nombreux après le changement de formule du médicament, de fatigues extrêmes à la perte de cheveux, en passant par des douleurs chroniques physique ou encore des idées suicidaires.
Solène Lehen, l'heure du réquisitoire pour le couple Balkany. Le parquet financier a demandé aujourd'hui 7 ans ferme avec mandat de dépôt et 10 ans d'inéligibilité contre le maire de Levallois, 4 ans avec sursis et 500 000 euros contre son épouse Isabelle Balkany. Puis une perquisition a été menée aujourd'hui au domicile de l'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn, près de Paris, dans le cadre de l'enquête qui concerne notamment le financement de son mariage au château de Versailles. 20h33, les informés, deuxième partie, Jean-François Aquili.
20h21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Avec nos invités Véronique Reil-Soult, directrice générale de Dentsu Consulting, Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, et Sophie Fay, journaliste économique à l'Obs. Nous évoquions notre sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info Le Figaro. C'est le débrief, si je puis dire, du discours de politique générale d'Édouard Philippe, avec quelques mystères, quelques zones d'ombre, notamment sur le financement de quelques réformes. Vous le savez, 27 milliards de baisses d'impôts annoncées pour le quinquennat, dont les 5 milliards promis durant la crise des Gilets jaunes, qui seront financés par une réduction des niches fiscales, qui sera eh bien explicitée le mois prochain, a dit le Premier ministre. Oui, mais lesquels ? La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, aux 4 vérités sur France 2 ce matin.
On a expliqué qu'on n'allait pas toucher aux niches fiscales des particuliers, donc les Français n'ont pas à avoir d'inquiétude sur les niches fiscales qui concernent les aides à la personne, par exemple. Et on a expliqué que ça toucherait plutôt les entreprises. Et là, en l'occurrence, le Premier ministre, il a été très clair hier, il a dit « les niches fiscales, par exemple, qui touchent les très grandes entreprises ». Ça, je crois que c'est très précis. Puis après, il y a un travail qui est un travail, j'allais dire technique, avant de pouvoir présenter les choses dans le détail. Questions.
Sophie Fay, c'est très précis. Vraiment ?
Non, c'est pas très précis, puisque qu'est-ce qui touche les très grandes entreprises, on sait pas très bien. Mais il y a quand même une piste qui se dégage, c'est le mécénat. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il y a un côté assez logique, c'est que quand vous regardez le budget du ministère de la Culture, qui est de 2,7 milliards, et quand vous regardez ce que coûte la niche fiscale de mécénat pour les entreprises, qui est presque de 900 millions, vous vous demandez qui fait les choix culturels, en fait, en France. Et vous pouvez dire que les oui. entreprises en font plus que le ministère de la Culture. Donc, est-ce qu'il y aura un rééquilibrage? Le problème, c'est que si on supprime cette niche, on ne donnera pas forcément plus d'argent à la culture. Et donc, à la fin, il y a des établissements culturels qui risquent d'être en difficulté. Donc, il va falloir y aller quand même assez doucement.
Yannick Halimi, toujours des annonces de dépenses, mais quasiment jamais le mode d'emploi, finalement, en termes de financement détaillé.
Oui, on l'a dit. Moi, je pense que la clé de résolution dans l'esprit d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe, de Monsieur le Maire et de l'ensemble du gouvernement, c'est tout simplement, ces façons de parler, la relance de la croissance, qui est à la base. Et c'est en ce sens que il n'y a pas de tour.
Tous les gouvernements ont fait ça, les précédents, quels que soient
Oui, bien sûr. Mais enfin bon, là,
Le pari de la croissance,
quand même, malgré tout, par l'offre. Et même s'il y a eu des coups de pouce, et plus que des coups de pouce donnés au pouvoir d'achat, on va pas répéter les mesures et le montant que ça représente globalement, l'ordre des priorités ne change pas. C'est-à-dire que c'est quand même la politique de l'offre, la compétitivité des entreprises, même s'il y a des coups de canif sur les contrats courts, etc., etc. Ça, la priorité, un, reste la même, et deux, même si le déficit se creuse un peu, Emmanuel Macron ne ferme pas la porte, ne dit pas à l'Europe, après nous le déluge, contrairement à certains autres présidents qui par doctrine, par idéologie ou par contrainte, on fait cela. Donc, je termine si je puis me permettre. Donc, là, sur ce point-là, pour répondre à votre question, je pense que le gouvernement table toujours sur une mécanique vertueuse de création de croissance, création d'emplois et donc cotisations supplémentaires. Oui, là, juste pour terminer, où il y a un élément pour le coup de véritable changement qui n'est pas uniquement électoraliste ou démagogique, c'est sur les personnes âgées. Le gouvernement, depuis le début, a fait payer, pour faire vite, avec la CSG, avec la des indexations des retraites, etc., les personnes âgées, mais également aussi d'un point de vue, idéologique, parce qu'ils estimaient que c'était le travail qui devait payer, et le non-travail, pardonnez-moi, qui devait payer pour le travail et qui est un transfert des seniors vers notamment les actifs, des inactifs vers les actifs. Là, crise des Gilets jaunes notamment oblige, le gouvernement est revenu sur ces mesures et en plus il en a fait plus, avec quand même une mesure qui n'est pas mise en avant, sur les 1 000 euros les 1000 euros de retraite minimale pour tous les Français.
Véronique Rel-Soult, il y a des sujets non dits.
Alors, il y a des sujets non dits que du coup nous n'avons pas pu tester.
Évidemment.
Et en particulier le sujet de la santé.
La santé.
En fait, il y avait beaucoup de messages qui s'étonnaient qu'il n'y ait pas eu spécifiquement de messages sur la santé, d'autant que l'actualité sur la santé et les urgentistes.
La grève des urgentistes qui s'étend aux hôpitaux désormais.
Et,
oui.
Et en plus, c'était un sujet qui avait été largement plébiscité lors du grand débat, où il y a eu beaucoup de demandes qui sont remontées spontanément sur la santé, qui est un sujet de préoccupation visiblement très fort pour les Français. Donc ça faisait partie des sujets où il y avait une forme d'impasse hier dans ce discours.
Roselyne Fèvre, à propos du discours, il y a eu le vote des sénateurs un petit peu rare, hein, on va le dire, en général ils ne votent pas. Majoritairement, ils ont choisi l'abstention, 181 sénateurs sur 345 votants, dont la très grande majorité des Républicains. Que signifie cette abstention sénatoriale ?
Eh bien d'ailleurs, parce que le Sénat, c'est la chambre des territoires, et comme on a entendu Édouard Philippe, il veut un troisième acte de décentralisation. C'est en clair, réserver un statut de l'élu local et une amélioration de leur situation, une garantie des finances aussi des collectivités locales, et puis aussi en vue des municipales avec des alliances, puisque souvent les élus et les collectivités locales.
Vous voulez dire que les sénateurs n'insultent pas l'avenir?
Ben voilà, c'est ça. Et puis surtout, il y avait le bâton qui était la réforme constitutionnelle, et on a vu, et il l'a dit, que ça servait à rien d'aller batailler avec le Sénat, qui in fine n'était pas d'accord. Donc le bâton, eh bien Édouard Philippe l'a repris, et donc le Sénat rend la carotte, si je puis dire, qui est on s'abstient et on n'est pas comme à l'Assemblée nationale dans le vote contre qui a été massif.
Sophie Fay, une révision constitutionnelle, ça a été dit dès hier, qui verra le jour, mais plus tard, le plus tard possible.
Plus tard, il y a un autre aspect sur lequel ils attendent beaucoup d'économies au gouvernement, donc moi je suis un peu dubitative, mais on va voir. Ils disent qu'ils veulent remettre des services publics décentralisés et qu'ils vont alléger la fonction publique centrale, et que le fait d'installer davantage d'administration, notamment celle des impôts hors de Paris, va permettre de faire baisser les coûts immobiliers, de faire des économies, mais ça peut aussi régénérer l'activité de certaines régions, de certains territoires, ce qui peut être aussi intéressant pour les élus locaux que sont les sénateurs.
Allez, je vous rappelle notre enquête sondage, Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, à relire, à découvrir du moins, ou à explorer sur notre site franceinfo.fr, 20h40. Rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Les suites du procès Balkany devant le tribunal de Paris. Dans le volet blanchiment de fraude fiscale, le parquet a prononcé son réquisitoire. Il demande 7 ans de prison ferme de la détention et 10 ans d'inéligibilité pour le maire de Levallois-Perret. Pour son épouse, il réclame 4 ans de prison avec sursis et 500 000 euros d'amende. Les policiers ont tiré l'an dernier 3 fois plus de munitions qu'en 2017 lors de l'usage de leur lanceur de balles de défense. C'est l'inspection de la police qui le révèle aujourd'hui. Des chiffres d'ampleur dans un contexte de mobilisation gilets jaunes. La patronne de l'IGPN n'exclut pas une réflexion sur l'utilisation de ces LBD, mais pas pour l'instant. Le Portugais Antero Henrique quitte ses fonctions de directeur sportif du PSG, selon France Bleu Paris. Ses relations avec l'entraîneur du club de football de la capitale n'étaient pas franchement bonnes. Ce départ intervient alors que Leonardo est annoncé au PSG, où il pourrait prendre justement ses fonctions de directeur sportif. La 5e étape du Critérium du Dauphiné, à l'arrivée à Voiron dans l'Isère, c'est le Belge Wout van Aert qui s'impose. Il avait remporté l'étape d'hier.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons aborder le sujet de l'irresponsabilité pénale à 13 ans proposé par la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Mais avant cela, je voudrais avoir votre sentiment sur ce que vient d'évoquer Thomas Benesch, les 7 ans de prison requis et les 10 années d'inéligibilité contre Patrick Balkany. Véronique Rel-Soult, le maire de Levallois-Perret, comment est-il considéré?
Alors, on en parle beaucoup. Une star, je ne sais pas. Ce qui est amusant quand on regarde, c'est que globalement...
Sur les réseaux sociaux, hein,
d'accord. Oui, sur les réseaux sociaux, il déclenche autant de passion d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, visiblement, c'est un personnage qui fascine un peu. C'est sa gouaille, la façon dont il s'est défendu, fait que les gens, bien sûr, condamnent l'ensemble de ses faits. Mais en même temps, il y a pas mal de messages qui sont plutôt amusants. Alors, de soutien, peut-être pas, mais globalement, plutôt amusants. Le personnage... l'intrigue, l'histoire, sa femme, la saga, voilà, ouais. Ça fascine un peu. Et puis après, il y a quelques parallèles assez amusants qui sont faits sur les réseaux ce soir avec la réalité de la dureté des sanctions dans d'autres pays. Ouais. Et beaucoup comparent au Japon, par exemple, avec une certaine affaire de corruption ouais. aussi, où c'est plus violent. Donc les uns et les autres disent « t'as bien fait de vivre en France ». Enfin bref, il y a quelques trucs. Donc c'est plus... voilà, on peut pas dire qu'il est pas tellement attaqué.
Jeannick Halimi, vous le trouvez les réquisitions sévères ?
Oui, elles sont sévères, mais dans l'absolu, mais dans le relatif, les faits incriminés reprochés au couple Balkany, notamment à Monsieur Balkany, sont quand même extrêmement élevés. Ça va de l'évasion fiscale à la corruption et sur des montants qu'on a rarement vus, notamment pour bien sûr un homme politique, rien à voir par exemple avec ce qui avait été reproché à Monsieur Cahuzac, par exemple. Et puis au-delà de la réalité des faits, il y a aussi les mœurs qui ont changé, l'état d'esprit où on demande de la moralité, de la transparence, et puis également les lois qui sont. C'est un homme politique, c'est un élu.
Quelque chose a changé
donc des lois justement à la suite de l'affaire Cahuzac qui a fait avancer les choses en rapport aussi encore une fois avec l'état d'esprit général de la société qui demande beaucoup normalement aux élus. Ouais.
Sophie Fay, c'est maître Éric Dupont-Moretti qui a estimé que le réquisitoire était disproportionné. Je le cite, on marche sur la tête. C'est l'avocat de Patrick Balkany, on l'a compris. Il estime qu'on a requis contre lui ce qu'on ne requiert pas pour les crimes de sang.
Écoutez, quand on dit aux Français il faut faire des économies, ils répondent mais cherchez d'abord la fraude fiscale et allez chercher les fraudeurs et allez chercher les malhonnêtes. Et là, je trouve ça assez formidable que la justice aille jusqu'au bout. Donc c'est un réquisitoire, c'est pas la peine à laquelle il va être condamné. Il faut attendre, mais c'est ça répond à la préoccupation des Français. Et on voit que souvent on est sceptique face à la lutte contre les paradis fiscaux. On voit quand même que là, les échanges d'informations, la coopération. La justice a permis de faire avancer les choses.
Fin du tour de table avec vous, Roselyne Fèvre. La personnalité de Patrick Balkany, est-ce qu'elle franchit la porte de France 24 ?
Écoutez, on en parle. J'avoue que c'est pas en titre.
Je rappelle que vous, c'est la faute planétaire. Hein,
c'est voilà. Pas. Non, on est plutôt sur Hong Kong. Vous voyez des sujets un peu. Voilà. Non. C'est vrai que ça fait penser. C'est le vieux monde, quoi. C'est un peu le paléolithique inférieur aujourd'hui. Balkany, même si c'est un maire d'une ville, d'ailleurs, qui a fait du très bon travail, notons-le, dans sa ville. Mais c'est vrai, cette moralité, cette transparence aujourd'hui, parce que c'est sur des années quand même, hein, ce procès qui accumule des années, ben ça fait passer aux anciens mondes, aux anciens politiques, un peu, pas très regardant, avec toujours des billets plein les poches, un peu les années passent quoi. Et j'ai le sentiment que ce monde-là est un peu terminé.
Et avec aussi une forte dose d'humour au passage, il faut le rappeler. Allez, c'est un sujet qui oppose clairement la majorité à la droite. Il concerne la délinquance des mineurs, le seuil d'irresponsabilité pénale à 13 ans, proposé par Nicole Belloubet. Est-il acceptable? Voici les arguments de la garde des Sceaux et la réaction de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Toutes les deux étaient les invitées de France Inter ce matin.
Je le dis clairement ici, ce sera simplement une présomption qui est tout de même fondée sur l'idée que nous avons des enfants, c'est-à-dire que les mesures éducatives, lorsqu'on est très jeune, tous les gamins de 11 ans ne doivent pas aller en prison tout de même. Ça, je le revendique. En revanche, il n'est pas question qu'un enfant de 11 ans n'ait pas une réponse par rapport à l'acte qu'il a commis.
Il faut avoir des sanctions appropriées à leur âge, mais des mesures de réparation pénale. Le fait qu'on oblige ces enfants, lorsqu'ils commettent des actes pour les autres, pour les gangs, parce qu'ils sont instrumentalisés par les gangs de trafiquants de drogue, les gangs de pickpockets, les gangs de cambriolage. Les cambriolages sont faits souvent par des bandes de très jeunes mineurs.
Donc vous êtes archi contre.
C'est irresponsable. C'est pour ces enfants. On est en train de les livrer aux prédateurs qui sont les caïds.
Alors Sophie Fay, pour essayer de comprendre cette mesure proposée par la garde des Sceaux, un enfant de 13 ans, est-ce qu'il ne ferait donc pas preuve de discernement? Il ne serait pas responsable de tous ces actes? C'est un peu le sujet qui est posé.
C'est pas du tout ce qu'a dit la garde des Sceaux, en fait. Ça va pas changer grand-chose dans les faits, ce qu'elle a annoncé. En fait, elle met la France en cohérence avec des conventions internationales sur les droits de l'enfant qu'on a signées. Mais ce qu'elle dit bien que l'appréciation restera au juge et que si un enfant est jugé criminel et conscient de ses actes, il aura une punition. Mais simplement, elle dit que c'est pas automatique et qu'on se met conformément aux lois. Et les juges avaient déjà la liberté d'appréciation, ils continueront à avoir la liberté d'appréciation.
Donc c'est une sorte d'aménagement de ce qui existe déjà au fond.
On se met en conformité avec les lois.
Jeannick Halimi, c'est pas d'accord.
Il y a une deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'elle essaye de mettre en, elle a décidé de mettre en œuvre une réforme qui avait été proposée par par Christiane Taubira qui est très intéressante, qui est la césure, c'est l'idée de disjoindre les procès. Donc moi je suis pas une spécialiste, donc je vous explique ce que les spécialistes à l'OPS m'ont dit, de disjoindre les procès. Oui. Donc un enfant serait jugé pour ses actes, donc on dirait s'il est coupable ou pas, ce qui permettrait d'indemniser la victime, mais ensuite on attendrait pour lui appliquer une peine, parce que à cet âge-là, il peut aussi avoir changé, il peut aussi avoir commencé à s'amender, il peut être suivi et ne plus... ça peut le mettre en prison, peut ne pas être la bonne décision. Mmh. Ou lui appliquer des mesures d'éducation répressive peut ne pas être la bonne décision. Surtout avec les délais de la justice, s'il est jugé à 18 ans pour des faits qu'il a commis à 15 ans, est-ce que c'est vraiment juste ?
Vous n'êtes pas spécialiste, mais ce que vous dites est très clair. Jeannick Halimi, moins de 13 ans, pas de procès, c'est-à-dire on désengorge quelque part aussi à la marge les tribunaux. Il y a cette idée-là derrière.
Oui, peut-être. En revanche, pardon, contrairement à ce que vous dites, il y a quand même, c'est pas seulement un aménagement de ce qui existait, il y a quand même un renversement du principe qui est que jusqu'à 13 ans, les enfants donc sont considérés comme irresponsables, avec effectivement tout ce que vous dites, la possibilité, la liberté de juger au cas par cas. Par le juge, et je dirais que certains, notamment le syndicat de la magistrature, estiment que ça ne va pas assez loin, c'est-à-dire que eux auraient voulu que le principe d'irresponsabilité soit, je crois qu'on dit, irréfragable, et que les juges n'aient même pas cette liberté discrétionnaire d'appréciation au cas par cas. Donc après, ce que disait Valérie Pécresse, peut-être de façon un peu résumée, qui n'est pas totalement ce qui sa pensée, c'est pas soit les laisser livrer aux bandes, soit la prison. Non, il y a effectivement des peines intermédiaires.
Et puis une gamme de peines intermédiaires.
Voilà. Oui. L'autre élément, effectivement, qui est la détention provisoire, qui est un deuxième volet de ce projet de loi, c'est qu'il faut savoir que...
Il n'y a pas de détention provisoire pour les...
Il y a des prévenus. C'est 85% aujourd'hui des moins de 13 ans sont considérés comme des prévenus, alors que la moyenne est de... 23 ou 24% pour les adultes. Donc il y a quand même un vrai problème pour ces mineurs de moins de 13 ans.
Véronique Relsout, il faut rappeler que les policiers dénoncent une violence croissante chez les mineurs avant 13 ans. Ce sont des sujets qui reviennent beaucoup dans l'actualité, cette ultra-violence des très jeunes désormais.
D'ultra-violence des très jeunes et du coup, ultra-violence aussi des commentaires, ça fait partie des sujets qui déclenchent franchement des réactions non seulement virulentes mais véhémentes, avec des discussions très tranchées. C'est l'un des rares sujets où définitivement, on sent qu'il y a des gens qui sont extrêmement contre et d'autres qui sont extrêmement pour. C'est pas du tout un sujet consensuel. On voit bien qu'il n'y a pas de sujet consensuel, au point où, par exemple, Madame Pécresse a ce matin tweeté après son intervention. Elle a eu un des taux d'engagement les plus forts avec son tweet, avec plus de 400 interactions dans la demi-heure qui a suivi. Donc on voit bien que c'est un sujet épidermique, compliqué, plein d'idées reçues par moment, mais qui font qu'on ne peut pas discuter, en fait.
De façon très rationnelle là-dessus.
Il n'y a pas de point rationnel.
20h50 sur France Info. Rappel de Info avec vous, Thomas Bénèche.
Le détenu à l'origine de la prise d'otage de deux surveillants avant-hier soir à la prison de Condé-sur-Sarthe est mis en examen. Francis Dorfer, c'est son nom, voulait obtenir son transfert vers un centre pénitentiaire de région parisienne pour renouer avec son fils, dit-il. On doit à ce prisonnier quatre autres prises d'otage qui lui ont valu d'ailleurs des condamnations devant la justice. Le parquet de Nanterre annonce une perquisition ce jeudi au domicile de Carlos Ghosn dans les Yvelines. Les policiers enquêtent sur le financement du mariage de l'ancien patron de Renault, célébré en octobre 2016 au château de Versailles. L'organisation de cet événement a donné lieu à une contrepartie. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo accuse, il juge ce soir l'Iran responsable de l'attaque de deux pétroliers aujourd'hui en mer d'Oman. Les rapports entre les deux puissances sont tendus sur fond de querelles autour du nucléaire. Pompeo espère à ce sujet que le régime de Téhéran revienne à la table des négociations pour régler ce dossier. Le mondial féminin de football avec le succès de l'Australie sur le Brésil ce soir à Montpellier. Score final 3-2. Dans 10 minutes maintenant, l'Afrique du Sud affronte la Chine.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Ça commence bien, ça commence par un bug. Le site internet ouvert ce matin, très tôt, par le gouvernement pour recueillir eh bien, les signatures en faveur d'un référendum contre la privatisation d'ADP, Aéroport de Paris, eh bien, resté bloqué de longues heures, ce qui a agacé prodigieusement Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, à l'initiative de la proposition de loi pour le référendum d'initiative partagée sur la question.
J'ai pas le sentiment que le gouvernement veuille particulièrement que cette affaire réussisse, si vous me permettez l'expression. Mais je ne ferai pas de faux procès, je ne dirai pas qu'il y a, entre guillemets, une volonté d'empêcher les choses de se faire correctement. Mais nous souhaitons être vigilants. Nous allons donc demander un comité de suivi. Comme il y avait eu un comité de suivi pour le grand débat, eh bien pourquoi n'y a-t-il pas un comité de suivi pour la mise en œuvre de ce référendum, en tout cas de ce recollement de signatures.
Véronique Reilsoult, bug, ça vous parle, hein, vous qui avez l'œil toute la journée sur les écrans.
Alors le bug, oui. Ça me parle, et on a une bonne petite théorie du complot qui démarre là, et qui a été reprise évidemment sur le net, en disant ah, ben, pourquoi est-ce que ça bug. En tout cas, je peux vous dire que ce sujet, il a mobilisé 80 000 messages dans la journée, la moitié des messages étaient sur le bug, avec une partie donc bien complot, mais globalement surtout beaucoup d'interrogations. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans les messages, il y avait beaucoup de pédagogie, beaucoup de gens qui faisaient à voter, donnant des consignes, en expliquant qu'il fallait bien mettre écrire en capital, que non, il ne fallait pas avoir peur de mettre son nom parce qu'il serait écrasé après, qu'il n'y aurait pas de nom, enfin qu'il n'y aurait pas de conservation des noms. Enfin, on sent qu'il y a une mobilisation des internautes très forte sur ce sujet. Ils ont envie que ça fonctionne, ils ont envie de montrer que la démocratie numérique, ça existe. Donc c'était un vrai sujet, et on est qu'au début.
On va éviter la théorie du complot, hein. Après tout, il peut y avoir aussi une panne, ça peut être aussi le signe d'un engouement des publics sur ce vote. Avec vous, Roselyne Fèvre, il faut rappeler, la période de recueil, alors il faut 4,7 millions de signatures pour ce RIP. Le RIP qui devait être soulagé, allégé ou simplifié dans la révision constitutionnelle qui ne verra pas le jour.
Oui, qui ne verra pas le jour. Donc, alors ça devait être un outil de démocratie, mais on voit que c'est une arme désormais politique pour la droite, hein, puisque la droite est vent debout. Alors vous le disiez.
Et la gauche aussi, pardon.
Et la gauche aussi. Évidemment.
Tout le monde.
Non, mais la droite, parce que qui ont voté, privatisé.
Ils ont déposé une proposition de loi identique entre la France Insoumise et la République.
Bien sûr. Mais curieux de la part de la droite, on peut, c'est ce qu'on peut noter, c'est ce que je voulais dire par là. Non, mais c'est le parcours du combattant, cette affaire. Donc, vous le disiez, d'abord, ça va durer 9 mois, faut être inscrit sur les listes électorales. Une fois terminé, le Conseil constitutionnel aura 1 mois pour déterminer, si le seuil des 10% du seuil électoral, du corps électoral a été franchi. Et si le nombre des signataires atteint, à l'Assemblée nationale et au Sénat, eh bien, on aura 6 mois pour décider, examiner ou non la proposition de loi.
Oui, tout ça est un peu. C'est un peu longue distance.
C'est une belle, grande usine à gaz qui est mal partie.
Sophie Fay, le sujet, au fond, Aéroport de Paris, la privatisation, est-ce que cela, au fond, concerne les Français? Est-ce que ça les intéresse réellement?
Mais je suis absolument fascinée, moi, par l'engouement que crée ce référendum.
Pourquoi, selon vous?
Mais parce que, déjà, au départ, c'est une initiative assez technique. C'est une initiative, évidemment, gauche-droite, mais de l'opposition. Mais c'est deux députés qui sont très intéressants, Valérie Rabault et Gilles Carrez, et qui ont initié cette démarche pour des raisons très techniques. Ils sont tous les deux ingénieurs des ponts. Ils trouvent que on ne devrait pas confier la manne de l'aménagement de cette partie de l'Île-de-France au secteur privé et que l'État peut s'en occuper. Ils sont très, très remontés là-dessus. Ils ont convaincu un mouvement politique et on voit des partis politiques qui se mobilisent pour aller faire signer les Français. C'est tout à fait intéressant sur un sujet qui est plutôt aride. Un sujet quand même économique très aride. Et un peu particulier parce que vous savez, en même temps, il y a la privatisation de la Française des Jeux, qui est quand même une entreprise qui collecte l'impôt, qui est, à mon avis, pas très légitime. On ne voit pas pourquoi on privatise ce monopole. Et là, ça fait pas de débat. Donc, je trouve ça assez.
Yannick Adimi, quel est le message? C'est pas touche aux bijoux de famille?
Il y a plusieurs messages. Il y a le message, c'est effectivement vrai, économique, où des gens et des hommes et des femmes politiques très rationnellement, légitimement, de toute façon, tout est légitime, hein, dans cette affaire, c'est pas, mais estiment que il faudrait pas refaire la bêtise, l'erreur, enfin, notamment des concessions d'autoroutes ou les concessions privées.
Ça parle aux gens, hein. Oui.
Aux gens parce que les autoroutes, pour le coup, tout le monde l'utilise. Alors qu'Aéroport de Paris, c'est plutôt Air France. On va à Aéroport de Paris, mais on paye rien, enfin, spontanément, Aéroport de Paris. Bon, c'est quand même beaucoup plus éthéré, tout de même, même si ça peut être une marque. Il y a un autre élément bon, que enfin, cet là, argument
qu'on gère le magasin Guerlain, que ce soit l'État qui gère les magasins à l'intérieur de l'aéroport de Paris.
Je ne dis pas, je ne dis pas autre chose.
C'est
je
pas
dis
un qu'il y a un enjeu extraordinaire.
Allez-y, je ne dirai rien effectivement.
Je dis effectivement, c'est très. Je suis pas en train de légitimer le fait qu'il faille laisser nationaliser public, etc. Par contre, il y a quand même un argument, on en pense qu'on veut, qui est de dire ça touche aux frontières de la France, et ça, c'est un argument de sécurité publique et d'ordre public au sens très large du terme. Donc, on peut penser sur le fond. Il n'empêche deux choses, qu'il y a quand même une instrumentalisation politique, parce que pour des raisons idéologiques et doctrinales différentes de la droite et de la gauche, et la deuxième, c'est que ça bloque, même si c'est une usine à gaz, ça bloque jusque la fin de 2020 un processus législatif voté ou sur le point d'être voté par une démocratie représentative à l'Assemblée nationale.
Et la troisième, c'est la une du Parisien en France demain. Allez-y.
De demain, c'est les urgences.
Les urgences, très bien. Sophie Fay, la une de l'Obs.
C'est Détox, une nouvelle philosophie avec un nouveau gourou, le naturopathe Thomas Hull. Et c'est comme si vous y étiez.
Oui, avec une une de couleur verte. Merci à vous, Roselyne Fèvre. Merci également à Véronique Reilsoult pour ma part. Mais je vous dis à demain pour une prochaine édition. Désinformé, bonne soirée.